Chapitre 45. Nina, Karim, Béné, Stevie, Lazare, Nabil, Bolduc, et même toi, ma coccinelle. Chers tous, voilà, mon récit est terminé. Vous m'avez accompagné chaque heure, chaque jour, chaque nuit, depuis 16 jours, depuis que j'ai été incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen, la prison Bonne Nouvelle, comme on l'appelle ici, elle des femmes. De ma fenêtre, entre les barreaux, je peux apercevoir celle des hommes où Joe a été enfermé pendant 6 ans. Tel père, telle fille. J'ai occupé ces 16 derniers jours à vous écrire, à partager avec vous le récit de ma vie depuis mes 7 ans, depuis cette nuit du 29 avril 1983. J'ai tout rembobiné pour comprendre à quel moment je me suis perdue, à quel moment j'ai pris la mauvaise direction, à quel moment mes sens, mon instinct, mon intuition m'ont trompée. On peut toujours regarder en arrière, mais on ne peut pas changer le sens du courant d'une rivière. On peut seulement la remonter. On peut coucher le passé sur du papier, mais on ne peut pas le changer. Depuis mon incarcération, comme le lieutenant Campion me l'avait assuré, j'ai eu accès à tout le dossier. Mon avocate aussi, Mademoiselle d'Acosta, une pauvre jeune diplômée tremblante commise d'office, qui m'a rappelé les éducatrices débutantes trop compatissantes. Elle m'a tout expliqué. Il n'y a aucun doute à avoir, Richard Vidame n'a commis aucune faute. Un professionnel parfaitement organisé, il a tout conservé. Chaque déplacement au commissariat avec ma mère, chaque dépôt de plainte, chaque lettre à la police pour dénoncer la violence de mon père. Des psys, des juges et des flics m'ont expliqué et réexpliqué qu'il avait fait son job, autant qu'il le pouvait, et que ma vision avait été altérée parce que je n'avais que 7 ans, parce que j'avais subi un traumatisme et que pour faire le deuil, pour me protéger, je m'étais construite avec ce désir de vengeance, en le cachant à tous, sauf à toi, Nina. Mademoiselle d'Acosta m'assure que je bénéficierai de circonstances atténuantes si je parviens à convaincre le juge que j'ai pris conscience de mon erreur. Après tout, c'est autant ma faute que celle des psys, des éducs et de l'ensemble des institutions chargées de protéger l'enfance en danger. Ce sont eux qui n'ont pas su repérer ma névrose. Après tout, je n'ai tué personne. Personne? Qu'est-ce que tu en penses, Stevie? Qui se souvient encore de toi, à part moi et peut-être Nina? J'ai le temps d'écrire en prison. J'ai le temps de lire aussi. Mon unique livre rouge et or. Depuis mon incarcération, je relis un nouveau conte d'Andersen, l'un de ceux qui me plaisaient le moins avant. L'un de ceux que je ne comprenais pas. La petite fille aux allumettes. Le soir du réveillon, une petite fille perdue dans la rue gratte une à une les allumettes qu'elle devait vendre. Un seul de ces petits bâtons de soufre suffit à effacer le froid, la faim, la nuit. À travers chaque flamme, elle imagine une autre vie, un festin, un autre destin, et elle meurt au bout de la nuit d'avoir préféré une vie rêvée à sa sordide réalité. J'ai compris. J'ai compris que j'ai gratté ma dernière allumette. J'ai compris que pendant 12 ans, tout ce que j'ai vu, cru, n'était que l'hallucination née de la chaleur rassurante et trompeuse d'une minuscule flamme. Dire que j'ai cru être une de ces vengeresses de légende, une comtesse de Monte Cristo, une Manon des sources, une Eliane de l'été meurtrier. Froide, déterminée et impitoyable. Sauf que le méchant n'en était pas un. Tout juste un connard un peu trop ambitieux, un peu trop lâche peut-être, mais pas un monstre machiavélique que le lecteur prend plaisir à détester. Sauf que je me suis acharnée sur un innocent. Sauf que ma vengeance n'était qu'un caprice stupide. Sauf que ma vie n'est plus qu'une boîte d'allumettes vides. Je n'ai plus rien pour rêver, plus rien pour haïr. Juste terminer de vous écrire, au fond de cette prison, et espérer ne jamais en sortir. Je suis si désolée. Si désolée, Stevie, de t'avoir obligée à partir avant que tu connaisses ce truc révolutionnaire, Internet, dont parlent tous les journaux. Si désolée, Béné, de t'avoir déçue, de t'avoir trahi, toi, la meilleure éduque du monde. Protège bien ta petite Zia, elle le mérite tellement plus que moi. Si désolé, Lazare, sans doute ne te reverrai-je jamais. Si désolé pour toi aussi, Bolduc. Les chats ne sont pas acceptés au parloir. Et si un jour je ressors, tu seras depuis longtemps monté au paradis des matous. Si désolé pour toi, Antoine. Tu n'étais qu'un dommage collatéral. Si désolé surtout pour toi, Nina. Alors promets-moi de prendre soin du trésor que tu portes dans ton ventre, de lui offrir un papa, une famille, une enfance aussi réussie que la nôtre a été ratée, une vie où il ne se contente pas de gratter des allumettes. Une vie comme un grand feu de cheminée. Tu me le promets, Nina? Oublie-moi et vis cette vie-là. Moi, il ne me reste plus que toi à décevoir, ma dernière confidente, ma coccinelle, ma boîte à chagrin. La porte de ma cellule s'ouvre soudain, à moins que ce ne soit que plusieurs heures plus tard, ou le lendemain. Une gardienne entre, elle paraît avoir le même âge que moi. « Mademoiselle Crochet, la visite pour vous !»